Madame, monsieur, bonsoir. La principale information de ce samedi nous vient encore d'Allemagne de l'Est, où après 45 années de statu quo, la situation évolue non plus de semaine en semaine, mais pratiquement de jour en jour. Et tout peut arriver. Pourquoi pas demain la destruction du mur qui sépare les deux Allemagnes?
L'homme peut-il contrôler sa destinée? C'est la question à laquelle j'espère trouver une réponse.
Jukebox.
Des histoires en musique.
Oh, le futur est déjà écrit, il est irrévocable, on ne peut pas le changer.
Ah bon, Richardo.
À défaut de réécrire le futur, chaque samedi à 19h sur France Culture, Jukebox vous replonge dans le passé via un voyage dans le temps, en archives et en musique. Ce soir, dans le cadre de la semaine spéciale consacrée par France Culture à l'année 1989, nous musarderons le long du rideau de fer, lequel cette année-là se lézarde, se fissure et finalement s'effondre, voyant se renverser un à un les dominos du bloc de l'Est. Ce séisme politique de la Hongrie à la Roumanie, via la Pologne, la RDA et la République tchèque, les musiciens s'en saisissent évidemment, à commencer par les jeunesses fans de rock, de punk ou bien de new wave et dont certains morceaux contournent les censures, défient les pouvoirs en place et accélèrent la fin d'un monde. Dans cette histoire, on croisera les eaux salées de la mer Noire, des annonces télévisées, la ferveur religieuse d'un garde-barrière et des trousseaux de clés brandis vers le ciel. Ce soir, de Budapest à Bucarest, 1989, le rideau de fer mord la poussière. Août 1989, à Mamaia, station balnéaire roumaine située sur la mer Noire, la journée touche à sa fin. Sous la lumière rose, les grands hôtels de béton culminant à plus de 10 étages dominent la plage, une fine bande de sable s'étirant sur des kilomètres. Là, certains parasols se referment, mais la plage fourmille encore d'estivants qui s'attardent sur leurs serviettes, bavardes, les mains sur les hanches, de l'eau jusqu'aux genoux. Des gamins plongent depuis les passerelles rouillées. Les plus jeunes grattent encore le sable, montent des murs, des tours, creusent des ravines que la mer qui ne monte pas n'effacera pas. Le temps s'étire. Bien mieux fourni que dans le reste du pays, les commerces d'alimentation font leur caisse. Bientôt, les restaurants du bord de mer se rempliront des touristes. Dans l'un d'eux, un groupe d'Allemands est déjà attablé, sirotant son apéritif. Prenant à défaut la gaieté de la musique diffusée par l'établissement, une sorte de mélancolie s'installe. Demain, c'est la fin des vacances et tous s'en retourneront, chacun chez eux. Les uns à Berlin-Ouest, les autres à Leipzig. Aux premiers, le monde libre, aux autres, l'envers du rideau de fer. Bien sûr, ils se retrouveront l'été prochain si les autorités est-allemandes y consentent, au même endroit ou bien pourquoi pas du côté du lac Balaton, en Hongrie. Leurs réunions familiales dépendent du bon vouloir des censeurs, accordant ou pas aux citoyens de RDA le droit de voyager dans un pays frère une fois par an, là où leurs cousins de l'Ouest se débrouillent pour venir les rejoindre. Ce soir de la fin de l'été 1989, autour de la table d'un restaurant avec vue sur mer, la petite tablée semble se perdre dans ses pensées. Sur la plage, au loin, un chien aboie. Assis sur un parapet, un vieux communiste français entreprend une touriste tchèque. Tous ignorent que bientôt, leur liberté ne se limitera plus à ces antichambres balnéaires et estivales, qu'aucun pouvoir ne pourra plus s'opposer à leur retrouvaille, comme les passerelles depuis lesquelles les gamins plongent dans les eaux salées de la mer Noire, le rideau de fer est gagné par la corrosion. Le pub est trop cher pour nous aujourd'hui, le cinéma ne nous attire pas, la discothèque déborde, mais vous n'avez pas besoin d'une discothèque pour danser. Aujourd'hui, nous dansons dans le parc municipal. Les gars et les filles de notre bloc cherchent tous du rock et ça ne nous coûte pas un marque. Alors, tu descends ? Rock'n'Roll im Stadtpark 1983, le groupe Pankow fondé 2 ans plus tôt par des jeunes de Berlin-Est et baptisé du nom d'un quartier de la ville où vivaient alors la plupart des dirigeants de la RDA. Le régime et ses vieux autocrates que Pankow dans ses textes ne ménage pas. En 1988, un autre titre, Langweile, l'ennui, déplorait voir le même pays trop longtemps, entendre la même langue, trop longtemps j'ai attendu, j'ai espéré, pendant trop longtemps je me suis prosterné devant des vieillards, j'ai couru et rien ne s'est passé. Interdite de diffusion sur les ondes, cette chanson, Pankow l'entonnait à chacun de ses concerts, car à l'Est, clairement, l'ennui faisait des ravages.
Hey, hello. Tut mir leid, wir haben
L'ennui, on peut dire que la jeunesse s'y enfonçait depuis longtemps. En 1959 déjà, le tout-puissant dirigeant de la RDA, Walter Ulbricht, déclarait à propos de la politique culturelle « Il ne suffit pas de condamner la décadence capitaliste, nous devons proposer quelque chose de mieux ». Face au risque de voir s'amollir la génération à venir ou la laisser se pervertir à l'écoute des productions occidentales échangées sous le manteau, le label d'État Amiga avait été chargé de favoriser l'émergence d'une scène à destination de la jeunesse, prenant des valeurs positives, le socialisme, la famille ou le désarmement. Dans les années 70, il y avait d'abord eu les protest-songs du célèbre Wolf Biermann, très critique, mais on avait fini par lui interdire de revenir en RDA. Le très populaire Renft Combo avait été dissous et plusieurs de ses membres poursuivis pour outrage à la classe ouvrière après avoir raconté dans une chanson la fuite d'un ouvrier vers la RFA. Puis, les guitares rageuses des Pistols ou bien des Clash avaient débarqué aux oreilles de cette jeunesse via les radios étrangères ou les vinyles importés illégalement et recopiés sur des cassettes de qualité épouvantable. C'est l'époque où des jeunes se retrouvent dans des caves pour tenter d'imiter les rythmes de leurs idoles, traînant, cheveux longs et Doc Martens sur Alexanderplatz, au pied de l'imposante tour émettrice de la radio-télévision. Alexanderplatz, où en 1977, un concert du groupe Express rassemblant 20 000 personnes avait dégénéré. Des jeunes du public étaient tombés dans un puits de ventilation, la musique s'était arrêtée, les secours étaient intervenus, mais le public avait pensé à une interruption politique. Le concert avait tourné à l'émeute. La foule scandant « À bas la RDA ». Alexanderplatz avait été vidé à coups de matraques en caoutchouc et nettoyé au canon à eau. Cette répression, toutefois, ne parvenait pas ces années 80 à venir à bout de l'underground, à la multiplication des concerts sauvages donnés dans les arrière-cours berlinoises, avec tout ce que ça a comporté d'incertitudes politiques. Ces années-là, de plus en plus de groupes contestataires, empêchés de devenir professionnels, trouvaient refuge dans les églises et les temples protestants de Berlin-Est, de Dresde ou de Leipzig. Leipzig qui attire également en 81 et 82 des manifestations punk. Le punk qui, en raison de son nihilisme affiché, est surveillé comme le lait sur le feu. Un rapport de la Stasi dénombre en 1981 1000 membres actifs et 10 000 sympathisants. Et puis, il y a l'ostrock, comme on l'appelle, qui rencontre un immense succès, représenté par les groupes comme Pudis, Karat, City ou bien Silly. Formé en 77 et bientôt rejoint par la charismatique chanteuse Tamara Dance, Silly participe notamment à Rock für den Frieden, le Rock pour la paix, festival organisé chaque année à partir de 1982 au Palais de la République de Berlin-Est sous l'égide de l'Organisation des Jeunesses Communistes, drainant jusqu'à 20 000 spectateurs.
Schon seit 14 Tagen, ja, ich weiß, nicht wieder Streit zu suchen. Kurz und gut, da hat sich was ergeben. Jetzt ist endgültig Schluss mit dem Zusammenleben. Los, mach deine Sache.
Le groupe Silly, qui tournait sur toutes les platines vinyles de RDA cette année 1989 pour ce Pack Deine Sachen, autrement dit « Fais tes valises », c'est ce qu'ordonne une fille à son mec, « Fais tes affaires et dégage ». Le message n'est pas vraiment politique, mais raconte comment une partie de la jeunesse de RDA d'alors entre en ébullition. Certains commencent à avoir envie de renverser la table. Pour comprendre cette agitation, il faut revenir à 1985 chez le grand frère soviétique. Cette année-là, l'URSS est plombée par la stagnation économique, la corruption, le marché noir florissant et une forme de démoralisation collective. C'est alors que Gorbatchev accède au pouvoir à la mort de Tchernenko. À 54 ans, Gorbatchev est conscient de l'urgence à réformer le système. Il lance donc sa perestroïka, assouplissant la propriété collective, incitant les initiatives privées, autorisant notamment les citoyens à se constituer en auto-entrepreneurs. Il lance par ailleurs la glasnost, la transparence, qui permet une plus grande liberté de parole, une libéralisation partielle de la presse et un assouplissement de la censure. Des livres et des films jusqu'alors interdits sont dorénavant disponibles, comme le docteur Jivago. De même, des centaines de dissidents sont libérés. En décembre 86, Sakharov, assigné à résidence, est autorisé à revenir à Moscou. Étrangement, la catastrophe de Tchernobyl en avril 86 n'empêche pas une gorbimania de se propager. Le peuple soviétique s'entiche de ce dirigeant jeune, dynamique, moins chevillé à la langue de bois que ses prédécesseurs, et le magazine américain Time fait même de lui son homme de l'année 1987. Surtout, Gorbatchev met en pratique l'abandon de la doctrine Brejnev qui consistait jusqu'alors à envoyer les chars pour faire la police à la moindre incartade dans les pays frères. Cette année 89, tandis que la RDA notamment est marquée par la volonté croissante de ses concitoyens à aller voir à l'ouest, Gorbatchev refuse de recourir à la force. Plus question de rééditer les répressions de 56 en Pologne ou en Hongrie ou bien de 68 à Prague. Pour lui, seule la diffusion de son réformisme permettra de sauver le socialisme. Résultat, en 89, il souffle un vent d'ouverture, notamment en Pologne, où pour la première fois depuis 40 ans, est nommé un Premier ministre non communiste. Mais aussi en Hongrie, où l'aile réformiste du PC a pris la tête du changement. La Hongrie, justement, où, au printemps, une première brèche était apparue. Au milieu des années 80, personne ne sait où nous sommes. Face à Budapest, les années passent, mais l'ennui fait rage. Nous vivons pour demain, mais après-demain, nous ne serons plus là. Les rayons X nous coupent le corps, vous regardez la carte, mais nous n'avons pas de place, alors nous fumons une symphonie. Lénine Korouts, le boulevard Lénine, chanson du groupe Spenots, les épinards, enregistrée vers 1984, mélange d'underground et de new wave, racontant l'absence de perspective d'une bande de jeunes qui n'a rien d'autre à faire que de fumer des clopes, des symphonies, les moins chères d'alors, vendues non en paquets, mais en vrac. Le groupe Spenot, qui se produisait alors dans des clubs universitaires, jusqu'à ce que son chanteur, qui s'était également frotté au cinéma, parte à Berlin-Ouest en 86 pour y poursuivre ses études. Berlin-Ouest ? Oui, car la politique de voyage des Hongrois était alors plus libérale qu'ailleurs.
Scène de la vie quotidienne à Budapest. Beaucoup de monde sur la patinoire. En ville, on s'adonne aux joies du lèche-vitrine, chacun constatant une légère augmentation des prix au détail.
Archives, soir 3, février 1989.
Il est vrai que l'on découvre ici les nouveaux mécanismes de l'économie. La TVA vient de faire son apparition, de même l'impôt sur le revenu. L'allocation chômage étant distribuée depuis le 1er janvier. Et l'évolution ne devrait pas s'arrêter là, puisqu'en principe, le multipartisme aboli en 1949 devrait, dès l'année prochaine, faire sa réapparition. On en parle, on en discute, on attend. Le comité central du PC, réuni ce week-end au sein de cet immeuble, que l'on appelle ici la Maison Blanche, devrait prendre la décision qui consacrera en Hongrie un socialisme de type nouveau, rompant définitivement sans doute avec l'héritage stalinien.
Depuis quelques années, on jouissait en Hongrie d'un certain confort matériel, d'une sécurité sociale efficace, d'hôpitaux, du plein emploi et de loisirs gratuits, tout ceci certes au prix d'un endettement problématique. En novembre 89, à la mort du vieux dirigeant János Kádár et à l'issue d'une partie de poker perdue par les partisans d'une ligne dure, accède aux responsabilités un nouveau Premier ministre, un économiste de formation de 40 ans, réformiste dans l'âme, Miklós Németh, qui tente en urgence de trouver de quoi renflouer les caisses et éviter la faillite. Il pointe les coûts exorbitants dédiés à l'entretien du rideau de fer qui sépare le pays de l'Autriche. 246 km de barbelés électrifiés sur deux rangs et dont un rapport avait pointé dès 86 l'inefficacité. Son extrême vétusté le rendant quasi inopérant, ne servant souvent qu'à électrocuter les sangliers, ignorant les géopolitiques humaines et nécessitant d'être purement et simplement éteint en cas d'orage. En mars 89, Németh prudemment va consulter Gorbatchev à Moscou au sujet de cet entretien, d'autant plus anachronique que Budapest et Vienne ont présenté une candidature conjointe pour organiser l'exposition universelle de 1992. Comme toujours dans les affaires sérieuses, c'est sur le pas de la porte, au moment de prendre congé de son hôte, que le politicien hongrois ose la question. Et si on arrêtait les frais avec le rideau de fer ? « Faites ce que bon vous semble », lui avait répondu Gorbatchev. Les gardes-frontières s'attellent à la tâche les semaines suivantes, du côté de Rajka. Mi-avril, 3 ou 4 kilomètres de barbelés sont démantelés dans le plus grand secret. La nouvelle est finalement rendue publique début mai et les images filmées par la télévision ouest-allemande.
« Décidément, il se passe toujours quelque chose aux frontières hongroises. Progressivement, donc, le rideau de fer va disparaître sur 260 kilomètres pour devenir une frontière verte, un couloir de confiance. » Côté hongrois, cette disparition confirme le souci de démocratisation accélérée du pays. Côté autrichien, la satisfaction est générale avec cependant une réserve. On craint en effet que le nombre de réfugiés venant de l'Est n'augmente, situation qui inévitablement posera une nouvelle fois le problème de leur accueil.
Nézem a felhőket, olyan szépek ezek a felhők, sejtelmesek, ártatlanok és természethűek. Én is természethű vagyok, Li Tai-po, szavai csengnek a fülembe, én vagyok Li Tai-po. Sajnos nem értek saját kínaiul, de hiszek meg ezt, barna szemem van, ez egy veszett fazék. Lehetnék én is kamikázé, lehetnék én is kamikázé, papírnadrág. Lehetnék én is kamikázé,
kamikázé.
Oh.
Kamikázé. Kamikázé.
Oh.
Kamikázé.
Lehetnék én is kamikázé,
kamikázé.
Augusztus 13-a. Nem biztos, hogy péntek. Egyedül vagyok. Nem biztos, hogy élek. Most teljesen egyedül vagyok. Egyedül vagyok. Egyedül repülök. Egyedül repülök. Egyedül vagyok és egyedül repülök. Lehetnék én is kamikázé. Teljesen egyedül vagyok. Egyedül repülök. Most egyedül vagyok. Egyedül repülök. Teljesen egyedül vagyok. Egyedül repülök. Lehetnék én is kamikázé.
Kamikaze, le groupe hongrois et Bizottság, 1983. Face à cette brèche dans le rideau de fer, les leaders les plus durs du bloc de l'Est hurlent au loup, à commencer par l'Est allemand Erich Honecker, mais Gorbatchev tient bon. C'est l'été, le début des vacances, et justement, la diffusion des images de l'ouverture du rideau de fer entraîne un afflux soudain et inhabituel de citoyens de RDA vers la Hongrie. Début août, ils sont 10 000, 20 000, puis 45 000. Dans les campings du lac Balaton, ils s'entassent comme des touristes aux mines bronzées, mais dans des conditions qui rapidement deviennent problématiques, car ces Allemands refusent de rentrer chez eux. Or, la disparition des barbelés ne signifie pas que la frontière est ouverte et d'ailleurs, les gardes-frontières hongrois, la plupart du temps, veillent au grain. C'est alors que le 19 août, une étrange opération d'exfiltration a lieu, en lien avec des militants occidentaux. Ces derniers débarquent d'un coup par plusieurs centaines, organisent un pique-nique géant dans les champs près de la frontière à Sopron. On fraternise, et puis en fin de journée, sur les coups de 4 heures, ceux de l'Ouest s'en retournent chez eux, comme un seul homme. La cohue qui s'ensuit permet à 600 Allemands de l'Est de passer la frontière. Les nuits suivantes, des Allemands de l'Est enfilent des vêtements sombres et rampent dans les herbes. Ils franchissent les champs et disparaissent à l'Ouest. Ils ne laissent derrière eux, sur les bas-côtés des routes menant à la frontière, que leur trabant familial, le coffre plein de bagages et les jouets des enfants. Des trabants qui seront vite désossés par les locaux en manque de pièces détachées. 27 ans après l'érection du mur de Berlin, le bloc de l'Est fuit de nouveau. En quelques semaines, cet été 89, les candidats à l'exode se font connaître par milliers. Des Allemands de l'Est qui trouvent un encombrant refuge dans les ambassades ouest-allemandes de Prague, de Budapest, de Varsovie, sur fond de chaos diplomatique, le sauf-qui-peut a commencé. Varsovie, tiens, allons donc voir en Pologne où depuis quelque temps le climat général était, comme en Hongrie, au changement. France Culture, Jukebox, ce soir 1989, le rideau de fer rouille.
Karnawał, ale tańczyć chcę i będę tańczył z nią po dzień. To nie zabawa, ale bawię się. Bezsenne noce, senne dnie. Nie pytaj mnie.
Le groupe Obiwatel GC, autrement dit le citoyen GC, initial du nom de son chanteur qui, dans cette chanson de 1988, et qu'on peut traduire par « Ne posez pas de questions sur la Pologne », clame, malgré les difficultés, son attachement envers son pays. Ce n'est pas le carnaval, mais je veux danser, je danserai avec elle, je couche avec elle, bien qu'il se moque de moi. Ne me demandez pas pourquoi je suis avec elle, pourquoi je pense qu'il n'y a pas d'autre endroit pour moi. La Pologne, qui creuse alors un sillon plus libéral qu'ailleurs, notamment concernant les voyages. Nombreux sont les Polonais qui, chaque année, ont la possibilité de partir visiter Paris, Londres ou Rome. À chaque fois, c'est une fête. On les accompagne à l'aéroport et avant qu'ils n'embarquent, on leur offre des fleurs, à charge pour eux, à leur retour, de raconter tout ce qu'ils ont vu. Cette ouverture, la Pologne l'avait initiée 10 ans plus tôt, lorsque fin 1978, Karol Wojtyła avait été élu pape en remplacement de Jean-Paul Ier. Jean-Paul II, qui, d'emblée, avait pris position, multipliant les déclarations volontaristes du style « N'ayez pas peur, la vérité vaincra », ou bien rappelant, lors d'un déplacement en Pologne, le droit à l'autodétermination politique pour les citoyens. Quelques mois plus tard, éclatait le célèbre mouvement de grève sur les chantiers navals de Gdansk qui, gagnant le reste du pays, avait abouti à la naissance de Solidarnosc derrière Lech Walesa. Sauf que rapidement, en décembre 81, l'enthousiasme avait été douché par l'instauration de l'état d'urgence. Et puis, le temps était passé et tandis que Brejnev succombait, la situation s'était détendue. Musicalement, le pays connaît toutes ces années une incroyable effervescence, notamment autour de Jarocin, une petite ville qui accueille chaque été, à partir de 1980, le festival de musique de la jeune génération, une sorte de Woodstock de l'Est. Il y rassemble Baba sur leur tour, Krets d'Iroquois décolorés, Skinheads ou Rasta. La commune prête des terrains de camping et veille au bon approvisionnement en saucisses locales. De 5h du soir à 5h du matin, les groupes défilent sur deux scènes, punk, reggae, heavy metal, underground ou rock. Étrangement, le pouvoir fout la paix aux musiciens. Sans doute les censeurs voient-ils dans cet engouement de la jeunesse pour les musiques modernes un mal nécessaire, une manière de canaliser les énergies. Parmi les groupes punk qui émergent, fait notable en Pologne au début des années 1980, on trouve Republika, Déserteur ou bien encore Kult, qui cette année 89 publie le titre Pokovolnosk, autrement dit, la liberté et pourquoi faire, dénonçant la passivité de la majorité silencieuse, abrutie de télévision, de pain et de jeux. Pourtant, en disent les paroles, ceux que tu aimes, tu ne peux leur parler que par lettre, tu ne peux les sentir qu'au travers de la colle des timbres, simplement parce qu'ils vivent dans un autre pays.
Po co wam wolność, macie przecież telewizję, wolność. Po co wam wolność, macie przecież telewizję, Eurowizję, wolność. Po co wam wolność, macie przecież tyle pieniędzy, wolność. Po co wam wolność i będziecie ich mieć coraz więcej. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Przecież do pracy autobusy, wolność. Po co wam wolność i bezpłatny przyniosł pieniądze, wolność. Po co wam wolność, macie komu oddawać część, wolność. Po co wam wolność, dostaliście też mundial 86. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most przewodniczącego.
szanujcie w ramię w ramię. To słońce świata naszego przestrzewało życie głowy. Zawsze odmierzącego. Czy słyszysz, co tu dzieje się od lat? Jaki wokół siebie szum wytwarza ten fatalny świat? Co za fatalny świat podzielony granicami z ludźmi, których kochasz, rozmawiasz tylko listami. Czujesz ich jedynie przy pomocy pocztowego kleju, tylko dlatego, że mieszkają w innym kraju. Na tym świecie każdy jest zachłanny i pazerny. Na tym świecie każdy chce pieniądze i koncerny. Kilku frajerów rządzi świata tego polityką, a potem ci z nich myślą o płacie nad praktyką. Co za fatalny świat przemówienia z dnia siódmego. Co za ogromny świat roku bieżącego.
Le groupe polonais culte pour ce Poco Wolność, qu'autrement dit la liberté, mais pourquoi faire? La réponse à cette question rhétorique s'imposera rapidement. En juin 89, des élections parlementaires ont lieu et aboutissent à la fin de la République populaire de Pologne. Pendant ce temps, donc, les Allemands de l'Est restaient nettement moins bien logés. Mais leur colère se propage, justement nourrie par le désir de pouvoir eux aussi circuler librement à l'étranger, tandis que, comme on le racontait en ouverture, ils restent soumis à une réglementation très stricte, n'autorisant les déplacements dans un pays étranger non socialiste qu'aux seuls retraités, et encore une fois l'an, à condition que des membres de leur famille restent sur place comme en otage. Aux autres, à tous les autres, il fallait, pour espérer pouvoir sortir du pays, remplir tout un tas d'insupportables paperasses. Or, face aux libéralités hongroises, polonaises ou soviétiques, les tenants de la ligne dure du régime s'inquiètent. Ce n'est pas parce que votre voisin retapisse son appartement que vous êtes obligé d'en faire autant, se défend l'idéologue du régime. Pourtant, les masses aspirent clairement à un changement. En 86, plus de 500 000 ressortissants de RDA rendent visite à de la famille en RFA. L'année suivante, ils sont 5 millions à se rendre en Allemagne de l'Ouest, dont 20% n'ont pas l'âge de la retraite. Mais le régime alterne le chaud et le froid. Tout à coup, en novembre 88, est interdite la diffusion sur place d'une revue soviétique ayant publié un article trop critique sur Staline. Début 89, des manifestations ont lieu, notamment à Leipzig où, depuis longtemps, les églises de la ville organisent, les lundis à 17h, des prières pour la paix, lesquelles rassemblent de plus en plus de monde, réclamant la liberté de se déplacer, mais aussi la reconnaissance des mouvements d'opposition. À partir de septembre, ces manifestations se multiplient, sapant l'autorité du pouvoir, débordées. « C'est nous, le peuple !» proclament des banderoles à Dresde, Berlin-Est ou bien à Leipzig. Archives, Antenne 2, 5 novembre 1989.
Pour un pays ouvert, avec des hommes libres, une banderole, un appel. 300 Allemands de l'Est hier à Leipzig ont manifesté. Eux aussi veulent partir, eux aussi veulent plus de liberté, plus de démocratie. Mais au milieu des manifestants, la police secrète est-allemande. Banderole arrachée, bousculade, des manifestants traînés de force, arrêtés. Il n'aura fallu que quelques minutes aux policiers en civil pour disperser le rassemblement. Partir, pour beaucoup d'Allemands de l'Est aujourd'hui, le principal objectif.
Erich Honecker, le leader de la RDA, reste pourtant sourd à tout changement. Chacun finit par prendre position. Zagmir, Vodouchtest, dis-moi de quel bord tu es, ainsi que le chante en 1989 le groupe Naïve, un groupe punk originaire d'Erfurt. En arrière ou en avant, il faut choisir, nous faisons avancer le temps. Vous ne pouvez pas en profiter avec nous et avec eux. Dis-moi de quel bord tu es, dans quel sens tu vas, je veux t'appeler par ton vrai nom.
Sag mir, wo du stehst. blinkende Masken, Blitzen ins Licht. Wollen beim richtigen Namen dich nennen. Darum zeig uns dein wahres Gesicht. Zeig dein wahres Gesicht.
Sag mir, wo du stehst, le groupe Naïve, enregistré en 1989. La suite appartient à l'histoire. Berlin, 9 novembre 89, face à l'exaspération provoquée dans les pays limitrophes par la volonté d'émigrer des Allemands de l'Est, les autorités de RDA flanchent. En début de soirée, un porte-parole du PC local lâche, presque par inadvertance, lors d'une conférence de presse, que désormais, les laissez-passer pour franchir le mur seront distribués quasi sans formalité et sans délai, et que la nouvelle mesure entre en vigueur, sauf forte, à la seconde. La nouvelle, immédiatement reléguée dans les journaux télévisés et les radios, fait converger une foule immense vers les points de passage du mur où les Vopo, la police du peuple, finissent par abdiquer. Rapidement, des dizaines de milliers d'Allemands de l'Est passent à l'Ouest. Leurs marques ne valant rien, les autorités de RFA leur offrent à chacun 100 marques de l'Ouest, histoire de leur permettre de rapporter quelques babioles, produits de maquillage, disques de rock'n'roll ou jeux électroniques. Bien sûr, la plupart de ces transfuges s'en retourneront chez eux ensuite, n'ayant pas toujours la fascination de l'Occident qu'on a bien voulu retenir. RDA en cours d'écroulement, nulle raison que les républiques populaires voisines ne s'engouffrent pas, elles aussi, dans la brèche. En République tchèque, par exemple, où depuis longtemps, des failles se font sentir. En 87, un sondage publié dans la presse avait avec effroi dressé le constat du désenchantement de la jeunesse, laquelle avouait sans embâge délaisser les activités collectives proposées par les organisations officielles pour préférer s'avachir devant la télévision, s'amollir dans les salles obscures ou avaler café, revues et magazines. Les jeunes se foutraient de tout, ainsi que le chante un groupe de filles, D-Buck. Mon mec m'a quitté, les femmes sont contraintes par les hommes, mais moi je m'en fous, je veux juste boire du coca et courir à travers champs.
Ráno potkám toho, co říká sprostá slova. Smutek z něho čiší, ale čertovem. Se děje. Trochu mě to mrzí, ale čertovem. Já musím vypít Coca-Coli, blížit se mezi poli, vychodit všechny školy, ale čertovem. Holky tiše sedí, mají velký plán. Čertovem. Úděl každý ženy, prý je to tak dáno. Já vím, co z nich bude, ale čertovem. Já musím vypít Coca-Coli, blížit se mezi poli, vychodit všechny školy, ale čertovem.
večer ho zas potkám, teď odpovědi hledám. Nevím, proč se změnil, ale čertovem. Čemu vážná slova na to, co se děje? Trochu mě to mrzí, ale čertovem. Já musím vypít Coca-Coli, blížit se mezi poli, vychodit všechny školy, ale čertovem.
Ainsi donc, la jeunesse tchèque se foutrait de tout? Un coup d'œil, le 3 avril 88, au Palais de la Culture de Prague, contredit pourtant ce constat. S'y tient alors le Rockfest, le plus important festival de rock du pays. Certes, tout y est très contrôlé, on ne vend pas d'alcool à l'intérieur et tout devra être terminé à 22h, mais enfin, l'affluence dit le désir de la jeune génération. Cette année 88, ces jeunes vont d'ailleurs démontrer leur capacité à se mobiliser, d'autant que les occasions à commémorer ne manquent pas. Les 70 ans de la Tchécoslovaquie, les 40 ans du coup de Prague, les 20 ans du printemps de Prague. Le 21 août, un incroyable cortège sillonne la capitale. D'autres rassemblements ont lieu en 1989 pour la défense des droits de l'homme ou bien pour honorer l'étudiant Jan Palach qui s'était immolé 20 ans plus tôt. 800 personnes sont arrêtées. Pourtant, la mécanique est lancée. Les syndicats s'en mêlent. Des pétitions circulent réclamant la liberté politique et religieuse. Cette dernière, lancée par un garde-barrière d'une voie de chemin de fer, père de 8 enfants, rassemble 200 000 signatures et fait prendre conscience à la foule de sa puissance. Les rassemblements, soir après soir, drainent des centaines de milliers de personnes qui, spontanément, brandissent dans l'air leurs trousseaux de clés, manière de signifier au régime en place qu'il est temps de partir. Archive de la radio tchèque, le 21 novembre 89, sur la place Venceslas de Prague, là, devant des milliers de personnes, la chanteuse Marta Kubišová, grande vedette des années 60 et interdite depuis de concert, entonne a cappella sa prière pour Marta. Que la paix règne dans cette contrée, que la méchanceté, la jalousie et l'animosité, la peur et la haine s'estompent. Le moment est venu où le peuple reprend entre ses mains la gestion des affaires qui sont les siennes.
Ať už pominou, teď když má ztracená záda věcí zpět se k tobě navrátí, lidé navrátí.
Le 24 novembre, deux semaines après l'ouverture du mur de Berlin, le parti communiste tchèque s'auto-saborde via la démission collective de sa direction. Le 29 décembre, Václav Havel devient président de la République. Dans une étonnante économie de sang, la Tchécoslovaquie achève sa révolution de velours. L'effondrement du rideau de fer qui agit alors dans l'Europe centrale comme une traînée de poudre jusque dans les bastions les plus conservateurs du bloc, comme en Roumanie, qui, depuis les années 1980, a entrepris un virage sécuritaire et répressif. Ceux qui veulent fuir le pays peuvent bien tenter leur chance en traversant le Danube vers la Yougoslavie, mais ils sont souvent abattus par les gardes-frontières. Les autres subissent la pauvreté, les constantes pénuries alimentaires et la terreur entretenue par la sécurité, la police secrète. Mais en décembre 89, à Timișoara, la foule s'oppose aux intimidations exercées sur un pasteur protestant. L'armée intervient, on évoque un massacre des charniers et le peuple se soulève. Le 17 décembre, la police tire sur la foule. En quelques jours, le régime s'effondre. Le 21, Ceausescu, de retour d'un voyage en Iran, est conspué lors d'un meeting à Bucarest retransmis à la télévision. Quatre jours plus tard, il est passé par les armes. Alors évidemment, cette fin 1989, tout n'est pas encore réglé, comme le cas albanais où les dirigeants se bouchent les oreilles, ou bien encore en Yougoslavie. Les deux années suivantes verront, elles, l'effondrement de l'URSS. Mais disons que cette fin 1989, le rideau de fer est quasiment à terre. Le dernier client s'attarde. Demain sera un autre jour.
Barkeeper räumt die Gläser zusammen. Die Klofer hat mäßig zu tun im Revier. Die böse Uhr hat die Gäste vertrieben. Die Gäste sind fort außer mir.
Se referme ce numéro de Jukebox ce soir de Budapest à Bucarest 1989, le rideau de fer mord la poussière. Merci pour ces conseils à Judith Fontanarosa du Centre culturel hongrois de Paris, ainsi qu'à Anne Kobilac. À lire « Avoir 20 ans à l'Est » de Véronique Soulet, paru au Seuil, mais aussi « 1989, le mur de Berlin s'effondre », compilation des articles du journal Le Monde, paru chez le même éditeur. Toutes ces informations, vous les retrouvez sur franceculture.fr, à la page de Jukebox, depuis laquelle vous pouvez, en plus de tout, exporter les playlists en un clic vers les principales plateformes d'écoute en ligne. Cette semaine, la préparation a été signée Valentin Henry, avec les conseils d'Antoine Vios de la discothèque et d'Amélie Briand le jeune Alina. À la technique, c'était Éric Boisset, Agnès Catou à la réalisation, au micro à Maurice Chardot. Bonne soirée et à samedi 19h pour un prochain Jukebox.